La voix animale. Une émission de Karine Félix Faure, réalisée par Radiola.
Nous avons tous grandi avec les animaux, souvent à la maison, mais aussi dans les livres, à l'école, pendant nos balades dans la nature et dans notre imagination. Les animaux occupent une place essentielle dans nos vies, non seulement en tant que compagnons fidèles, mais aussi en tant que piliers de l'équilibre écologique. Comme le disait le naturaliste américain Henry Beston, les animaux sont d'autres peuples, pris avec nous dans le réseau de la vie. Dans cette émission, nous allons admirer la libellule, un petit chef-d'œuvre de la nature, à la fois performante, utile, mystérieuse et belle. Elles font partie de l'ordre des odonates, sous-ordre des anisoptères. Ce sont des insectes volants, souvent colorés, bleus, métalliques, verts, rouges, jaunes, noirs, dorés, et elles ont deux paires d'ailes transparentes, rigides et indépendantes. Un corps allongé et des yeux très développés qui couvrent une grande partie de la tête. Sa taille varie entre 2 et 16 cm selon les espèces. Petite parenthèse, il y a environ 300 millions d'années, 70 millions d'années avant les dinosaures, des insectes géants dominaient les cieux et parmi eux, la libellule Meganeura. Celle-ci avait une envergure allant jusqu'à 1 mètre d'une aile à l'autre et un corps aussi long qu'un avant-bras humain. C'était une créature volante, mais en version XXL. Et si vous vous demandez pourquoi elle était si grande à l'époque, la réponse est dans l'air, littéralement. À cette époque, l'atmosphère terrestre contenait environ 35% d'oxygène, contre seulement 21% aujourd'hui. Et pour les insectes qui respirent par de minuscules tubes appelés trachées, cet excès d'oxygène permettait de devenir démesurément grand. Mais le temps a passé, l'oxygène a diminué et avec lui la taille des insectes. Pourtant, les libellules modernes ont gardé le même plan de corps. Ailes perpendiculaires, yeux géants, corps allongé, pattes de chasseur et un vol toujours aussi impressionnant. Des fossiles de Meganeura ont d'ailleurs été trouvés chez nous, en France, notamment dans le Massif central, et aussi en Angleterre. La libellule trouve son habitat près de l'eau, étangs, rivières, lacs, marécages, car elles sont amphibiotiques. L'eau est essentielle pour leur reproduction. Elles y pondent leurs œufs. Les larves se développent dans l'eau, alors que les adultes ont une vie aérienne. La larve subit plusieurs mues durant sa croissance. Une fois sa taille maximale atteinte, elle quitte l'eau, entreprend sa dernière mue, puis étire ses ailes et son abdomen. Lorsque son corps et ses ailes ont suffisamment durci, elle prend son essor. Cette transformation est appelée émergence et on qualifie l'insecte volant d'imago. Peut-être vous découvriez les dépouilles larvaires nommées exuvies le long des berges attachées à des roseaux, joncs, herbautes ou encore sur des rochers ou troncs. Je vous en dis plus dans un instant, juste après un peu de musique. C'est d'ailleurs une chanson que j'ai écrite il y a bien longtemps, on l'entend dans l'enregistrement un peu rouillé, et que j'interprète moi-même. Une libellule y fait une apparition. À tout de suite.
Étoile, au doux regard de la.
encore quelques statistiques et infos sur notre star de l'émission. Il existe environ 6000 espèces de libellules à travers le monde. Leurs yeux, composés de jusqu'à 30 000 facettes, leur offrent une vision quasi panoramique sur 360 degrés. Ajoutez à cela une vitesse de vol pouvant atteindre 50 km/h, et j'ai même lu des chiffres plus élevés jusqu'à 90 km/h, et vous obtenez l'un des insectes volants les plus rapides du règne animal. Le cycle de vie de la libellule est tout sauf banal. Elle passe la majeure partie de sa vie sous forme de larve aquatique, parfois jusqu'à 5 ans, avant une métamorphose en adulte volant. Mais une fois transformé, l'adulte, ou imago, ne vit souvent que quelques semaines à quelques mois. Véritable chasseur de l'air, la libellule est une prédatrice redoutable. Elle se nourrit de moustiques, de mouches, de papillons et même d'autres libellules. Son taux de réussite à la chasse frôle les 95%, un record absolu chez les prédateurs, bien supérieur à celui du lion ou du requin. Grâce à son vol ultramaniable, elle peut capturer ses proies en plein vol, avec une précision chirurgicale. Les libellules sont de véritables indicateurs de santé pour les milieux humides, et en plus, elles nous rendent un fier service, jusqu'à 100 moustiques dévorés par jour, par individu. Leur vol multidirectionnel, leur vitesse et leur agilité inspirent aujourd'hui les ingénieurs en robotique pour concevoir les drones du futur. Leur vision ultra développée quant à elle surpasse celle de nombreux animaux et reste un mystère technologique. Enfin, on ne peut pas parler de la libellule sans évoquer sa beauté. Ses ailes translucides, ses couleurs irisées, une véritable œuvre d'art vivante. Dans de nombreuses cultures, elle symbolise la transformation, la liberté, voire l'illusion. Un insecte entre le réel et le rêve. Restez à l'écoute pour découvrir mon interview avec un entomologiste, c'est quelqu'un qui est expert en insectes, qui nous en dira plus sur la fascinante libellule.
Au lit les libellules, la nuit tombe au galop, les insectes stridulent et n'y vont pas mollo. La lune est un halo, pour l'instant minuscule, j'entends les trémolos d'un hibou qui ulule. C'est l'heure de te rejoindre au creux du bungalow. C'est des choses la moindre, j'arrive en pédalo. Je m'arrête au point d'eau pour tes beaux yeux, ma belle. Il me faut un cadeau et pas des grandes vaisselles. Je n'ai pas assez d'or, mais j'ai une autre idée. J'ai vu dans l'eau qui dort un bouquet d'orchidées. C'est dans les orchidées qui stagnent vers le bord que poussent les orchidées blanches que tu adores. Au nid les hirondelles, dodo les colibris, la tête sous une aile, laissez glisser la nuit. Vous nocturnes bestioles, glabres ou bienvenues, lumineuses lucioles, merci d'être venues. Je vous fais de la main un geste de salut, en prenant le chemin qui court dans les talus et mène à mon élu qui de ma vie se mêle. Puisque mon dévolu, je l'ai jeté sur elle. Les rongeurs des marais que ma chanson effare font des rats de marée entre les nénuphars. Aux dernières lueurs valselées à netons, je suis une âme sœur prise à ton âme son. J'arrive au pied du lit où tu te l'as venu, un peu comme un ovni qui tomberait des nues. Je rentre dans les draps, un peu intimidé. Tu nous prends dans tes bras, moi et mes orchidées. Au lit, le monde entier, ce n'est plus le moment. Allez tous vous coucher, même vous les chats-huants. Allez veiller ailleurs, ce qui dort alentour. Laissez-nous au bonheur de cette nuit d'amour.
chance d'échanger avec Maxime Roumazeil, un passionné d'observation du vivant et de la biodiversité. Engagé dans un projet local de sensibilisation à l'environnement, il œuvre au sein de l'association Nature au cœur, où il emmène petits et grands à la découverte de la nature. Je l'ai rencontré récemment pour La Voix animale et ma première question était: est-ce qu'on trouve beaucoup de libellules sur notre territoire et où peut-on les voir ?
Bonjour Karine et Radiola. On trouve beaucoup de libellules ici parce qu'il y a beaucoup d'écosystèmes différents. Selon s'il va y avoir de l'eau courante, une petite mare, de l'eau stagnante, il va y avoir des espèces différentes. Et ce qui fait que sur du Lefi, entre par exemple les vitrouillères, le jabron, l'étang d'Utopia, tout ça, ça fait plein de milieux différents et donc on trouve beaucoup d'espèces différentes. Et je me souviens d'une fois avoir marché le long du Jabron et on avait trouvé plus de 12 ou 13 espèces différentes.
Ah oui, parce que ça, c'était ma deuxième question, en fait, s'il y avait une ou deux espèces qu'on croise plus souvent que d'autres.
Ça dépend vraiment des endroits. Je dirais que ce qu'on voit beaucoup ici, c'est les demoiselles qui sont vert métallique avec les ailes un peu brunes. On les appelle les calots comme couleur, ptères comme ailes, les calopteryx.
Et effectivement, entre les libellules et la demoiselle, c'est quoi la différence ?
Très bonne question. On dit souvent libellules, mais en réalité, il y a bien deux groupes différents. Les libellules sont plus trapues, et quand elles sont posées, elles ont les ailes à plat au repos, bien dépliées. Alors que les demoiselles, elles sont plus graciles, plus fines, et quand elles se posent, elles ont les ailes repliées dans le dos au repos. Et en anglais, il y a les deux mots aussi. Il y a damselfly et dragonfly.
Très intéressant. Et Maxime, j'ai entendu l'alarmante information que ces dernières années, plus que 60% des insectes auraient disparu. Est-ce effectivement le cas et les libellules en font partie ?
Alors oui, ça c'est une étude qui a fait beaucoup parler d'elle. C'est des chercheurs allemands qui ont étudié pendant 30 ans la biomasse. La biomasse, ça veut dire qu'ils avaient des filets, ils capturaient tous les insectes volants et ils pesaient leur collecte. Et au cours de 30 ans, ils ont remarqué qu'il y avait entre 70 et 80% de diminution. Et ils ont fait cette étude dans les réserves en Allemagne. Que dire des champs en monoculture intensive ? Que dire de tous les endroits où on a bitumé dans toutes les zones d'activité autour de toutes les villes ? Donc là, c'est même pas 80%. Dans les zones d'activité, c'est 100% des insectes ont disparu, puisque maintenant, il n'y a que du béton. Donc effectivement, les insectes disparaissent à vitesse grand V, et ça, c'est depuis 30 ans. Sachant qu'on a commencé à utiliser les pesticides, on va dire un peu avant la Première Guerre mondiale et beaucoup après la Première Guerre mondiale. Et donc, on n'a pas beaucoup d'idées de comment c'était avant. En revanche, on a quelques écrits, des choses comme ça, où effectivement, on cohabitait avec les insectes de manière beaucoup plus intense et où on peut imaginer, alors je ne sais pas parce que pour Dieu le fit, je ne sais pas, mais on peut imaginer qu'il y a 100 ans, il y avait des libellules sur tous les balcons à Dieu le fit.
Et est-ce qu'il y a des libellules migratrices, comme les oiseaux par exemple ?
Oui, c'est une question intéressante, la migration des insectes. Ça paraît minuscule, mais il y a quand même des migrations. Et il faut aussi garder en tête que la migration, c'est pas forcément pour éviter la mauvaise saison. Donc il y a aussi des systèmes de voyage, où les libellules, les plus trapues notamment, vont beaucoup circuler entre les points d'eau et aller jusqu'à assez loin pour justement trouver de nouveaux points d'eau à coloniser. Puisque si, admettons, il y a un point d'eau qui disparaît totalement, et ben si l'espèce est restée là, l'espèce disparaît. Et donc c'est dans l'intérêt de l'espèce et des adultes de pouvoir aller pondre dans d'autres points d'eau et d'étendre la population si jamais il y a des événements climatiques, cataclysmiques, etc. Ou l'être humain qui passe par là. Cela dit, il y a quand même quelques migratrices parmi les libellules qu'on a ici en France. La plus connue, c'est une grosse libellule qui est gris-marron, marron-gris, avec une espèce de sel bleu fluo sur le dos. Et elle vient d'Afrique. Donc il y a des chemins de migration qui passent certainement par la Méditerranée. Donc une libellule est capable de traverser la Méditerranée. Il y a d'autres libellules dans le monde qui sont extrêmement aussi véloces, qui peuvent traverser l'océan Indien. Donc il y a aussi des libellules migratrices.
Intéressant, parce que j'avais aussi lu qu'en fait, ils ne vivaient pas trop longtemps.
Alors, ça dépend. Parce que, aussi, quand on regarde les insectes, on voit toujours l'adulte. Mais finalement, il y a la larve. Et c'est le même individu. La larve, elle, elle est aquatique. Elle vit dans l'eau. Et sous nos contrées, une larve de libellule, elle peut rester jusqu'à 3 années dans l'eau. Et attendre le bon moment pour sortir. Notamment dans les lacs et les tourbières de montagne. Si la saison est trop courte, s'il fait beau un peu trop tard, elle va se dire, bon, je reste, j'essaierai l'année prochaine. Et finalement, du coup, c'est un insecte qui va vivre 4-5 ans. Même si sous forme adulte, en général, il ne passe pas à la mauvaise saison. En général, les insectes sous nos contrées, ils vont se reproduire et ils vont passer l'hiver soit sous forme d'œuf, soit sous forme de larve, soit sous forme de chrysalide pour les papillons, par exemple, et rarement sous forme adulte. En ce qui concerne les libellules, pour passer la mauvaise saison, c'est-à-dire le gel, etc., ça va être des larves planquées au fond de l'eau.
Et pourquoi est-ce que les libellules sont importantes dans nos écosystèmes ?
Donc ça, c'est une question à laquelle il est dangereux de répondre, dans le sens où on veut toujours qu'il y ait des utilités. Alors, les êtres vivants sont là, ils sont là. On a coexisté avec eux depuis des millions, voire des milliards d'années. La vie sur Terre, elle a vraiment 500 millions d'années. C'est vraiment il y a 500 millions d'années que ça a commencé à se diversifier énormément. 500 millions d'années, c'est long quand même. Et on a coexisté ensemble. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de naturalistes qui essaient de dire « Mais regardez, c'est utile !» Mais en réalité, c'est pas une question qui se pose. C'est là, ce sont des êtres vivants qui sont à respecter comme tous les êtres vivants. Et derrière, bien entendu, si on a coexisté ensemble, c'est qu'il y a une raison. Et les libellules existent depuis très longtemps, depuis le Carbonifère, donc c'est il y a plusieurs centaines de millions d'années, bien avant nous. Et si on veut regarder quel rôle elles jouent dans l'écosystème, de base, elles ont forcément un rôle puisqu'elles sont là. Voilà. Donc on n'est même pas obligé de creuser la question, on a la réponse puisqu'elles sont là. Si on creuse la question parce qu'on est curieux, etc., eh bien effectivement, les larves de libellules vont manger beaucoup d'insectes aquatiques, notamment les moustiques. Ce sont des grandes, grandes carnassières. Pas de souci pour nos orteils. Hein. si on va mettre les pieds dans l'eau, dans le jabon, on ne risque rien. En revanche, elles vont manger beaucoup d'insectes aquatiques, même des petits alevins pour les plus grosses larves de libellules. Et après, les adultes aussi mangent beaucoup d'insectes.
Et est-ce qu'il existe des programmes ou des projets pour protéger les libellules spécifiquement ?
Oui, alors là-dessus, il y a deux aspects. Il y a soit l'aspect où il faut y faire attention et donc prendre soin des milieux humides. Donc par exemple, sur le jabron, le fait d'avoir laissé pas mal de flore, de petits arbustes, des endroits pas complètement coupés à blanc, ça permet aux libellules de se poser, de chasser. Il y a plus d'insectes, donc elles peuvent plus se manger quand elles sont sous forme adulte. Et puis ça permet aussi, donc la larve est sous l'eau, et au moment où elle va sortir pour devenir adulte, elle a besoin d'un support, une tige, des choses comme ça. Et si elle est trop exposée sur, par exemple, les rochers ou juste le mur du jabron, bah, elle va se faire manger. Alors que là, si elle arrive à se mettre dans un petit endroit où elle est un peu plus cachée, ce sera quand même plus sympa pour elle. Donc c'est pour ça que laisser tous les végétaux, c'est important. Ensuite, il y a plein de petites choses auxquelles on ne pense pas, mais qui sont dans notre culture. Par exemple, de faire des barrages sur les cours d'eau avec les rochers. J'ai fait ça aussi quand j'étais petit. Aujourd'hui, on se pose la question parce qu'on est nombreux à faire ça. Et en fait, ça casse complètement la dynamique des espèces dans les cours d'eau. Et donc, de plus en plus, on demande et on enlève les barrages sur les cours d'eau puisque les espèces ne peuvent plus circuler. Et si elles ne peuvent plus circuler, elles ne peuvent plus se rencontrer, se reproduire et se nourrir. Donc ça, par exemple, c'est un petit truc. Se dire, c'est vrai que c'est rigolo de faire un barrage sur le cours d'eau. C'est vrai que c'est agaçant de toujours se dire « Ah oui, les écolos, ils sont embêtants, on peut plus rien faire. » Mais en fait, c'est juste faire différemment. Il y a plein d'autres manières de s'amuser. Voilà, il y a plein de choses sur Internet. Vous tapez « clé des petites bêtes de l'eau » et puis du coup, on va à la rencontre des petites bêtes au lieu de faire des barrages. Ou alors, on fait un petit barrage qu'on enlève quand on part. Mais il faut se rendre compte qu'en fait, on est tellement nombreux que c'est devenu un vrai enjeu de protection des cours d'eau, ces fameux barrages, quoi, notamment en montagne.
Merci pour cette information.
Et il y a après le côté naturaliste, où on peut faire des inventaires. Ça s'appelle STELI, STE2LI, où du coup là on va essayer d'identifier les libellules et de transmettre les données. Donc il y a plusieurs niveaux, soit on est déjà assez connaisseur et on peut identifier l'espèce, soit on est moins connaisseur et de ce fait-là il y a des groupes d'espèces. Ça, si on tape STELI sur Internet, on trouve tous les protocoles, tous les supports, STE2LI.
Formidable, merci. Et dernière question, Maxime, en tant que citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider ? Tu as déjà dit des choses, est-ce qu'il y a d'autres choses ?
Oui, ben c'est en fait, transformer un petit peu notre approche par rapport à la biodiversité, c'est-à-dire de ne pas considérer qu'on va être restreint tout le temps dans nos actions pour protéger la biodiversité, mais c'est plutôt inverser cette mentalité, de se dire en fait on va être créatif pour à la fois déconstruire ce qu'on a trop fait par méconnaissance et par séparation. Parce que ça, la séparation entre nous et les autres êtres vivants, c'est une séparation sociale et idéologique. Mais ce n'est pas une séparation réelle. Il y a plein d'autres populations dans le monde qui n'ont pas cette séparation. L'homo nature n'existe quasiment que dans notre société occidentale et industrielle. Et donc, c'est plutôt de se dire quelles activités je vais faire pour le moins nuire possible à la biodiversité. Et ça devient un jeu, de dire « Ah, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui nuirait le moins et quand même ce serait fun ?» Et c'est plutôt prendre ça d'un côté plutôt sympathique et ludique, plutôt que se dire « Ah, j'ai pas le droit de faire ça. » Voilà. Et après, clairement, sur le jabron, pas faire des barrages qui coupent tout le cours d'eau. Si on voit des gens le faire, y aller très gentiment et prendre conscience que c'est pas méchant, c'est juste de la apporter à connaissance. Ensuite, c'est aussi tout ce qui concerne les produits qu'on utilise à la maison, par exemple. Il y en a beaucoup qui atterrissent un moment ou un autre dans l'eau. Faut pas croire que tout est filtré, ça c'est pareil, ça c'est une utopie, ça n'existe pas. Et donc, tous les produits vaisselle, toutes les lessives, tous les détergents, tout ça, ça finit un moment ou l'autre dans l'eau, des rivières. Et ça abîme les êtres vivants qui vivent, ça abîme les écosystèmes. Et après, les rivières sont moins fortes. Et forcément, voilà, c'est à la fois grave en tant que tel, et en plus de ça, ça a des impacts sur nous, puisqu'après cette eau, à un moment ou à un autre, on la boit.
Maxime, on apprend tellement avec toi, franchement. Écoute, merci beaucoup, et on regardera les libellules d'un autre œil, c'est certain. Merci, Maxime.
Deux ou trois libellules en vol, troublaient Lucille. Sur le chemin de son école, en pleine ville, ces libellules en ville sont folles, se dit Lucille, qui les attrape avec un fil et puis s'envole. Deux ou trois libellules en vol portaient Lucille, deux ou trois hirondelles en fil suivaient leur vol. Elles sont arrivées sur une île si loin de son école que les lumières de la ville sont des lucioles. Les libellules disaient, Lucille, à notre école, vois c'est facile, tu bats des cils et tu t'envoles. Comme elle prononçait ces paroles, au même instant Lucille entendit au loin dans la ville sonner l'école. Deux ou trois libellules en vol suivaient Lucille sur le chemin de son école, en pleine ville, pressant le pas souple et gracile, Lucille frôlait le sol, battant des cils d'un air tranquille vers son école.
Et si on terminait cette émission par une histoire jeunesse ? Il s'agit d'un album de Peggy, plein d'humour, qui met en scène une libellule confrontée à un drôle de problème. L'album s'appelle « La libellule qui pète et la mouche qui pue ». Je l'ai découvert à la librairie Petit Saut et Petite Gambade, à Dieulefi. La lecture vous est offerte par la conteuse Virginie Komanicki, qui depuis plus de 20 ans tisse des récits enchanteurs pour toutes les oreilles.
Près d'un lac, Lulu la libellule se refait une beauté. Elle lustre ses ailes diaprées et sa peau irisée. De ses grands yeux qui voient de tous les côtés, elle observe un groupe d'insectes qui se moquent d'elle. Ça n'est pas drôle, faut bien l'avouer. En réalité, Lulu a un souci. Elle pète. Elle pète sans arrêt. Du lundi au samedi, elle pète. Elle n'a qu'un jour de répit. Bébé, elle était tombée dans une délicieuse boisson gazeuse. Elle s'était régalée, mais sa maman l'avait prévenue. Boire du soda n'est pas bon pour l'estomac. Comme c'est embarrassant. Le lundi. Le mardi. Le mercredi. Le jeudi, c'est... Le vendredi, un petit... Heureusement, le samedi, son pet sent très mauvais mais ne fait pas de bruit. Lulu est désespérée. Elle ne trouve aucun ami, ils fuient tous sa compagnie et disent que ses pets sentent le moisi. Alors, elle se balade seule, déjeune seule, à la recherche de mouches, à gober. Non loin de là, Craspec la mouche se roule dans une crotte et dévore les déchets des poubelles, les cacas de libellule et les fruits pourris. Un lundi matin, à la fraîche, se délectant des crottes de Lulu, Craspec sent une bonne odeur de paix, une odeur subtile et raffinée. Dans le ciel, elle découvre alors des rafales de proutes, magnifiquement dessinées, comme c'est beau, comme ça sent si bon. La libellule, s'apprêtant à l'avaler, l'observe et découvre étonnée qu'elle ait enfin apprécié. Vos paix sont si maîtrisés, les ronds comme les carrés. Comment faites-vous pour sortir de vos fesses de telles prouesses ? Demande Craspec. La libellule, qui aime se vanter, lui répond : ça fait des années que je m'exerce. C'est un art que peu d'insectes connaissent, mais je vois que vous êtes une experte. En voici, rien que pour vous, un spectacle plein de promesses. Et Lulu s'en donne à cœur joie. Elle déploie tout son savoir-faire, des pets ondulés, des pets en spirale, des pets ovales, des pets ondulatoires, le tout assorti d'une divine musique. Craspec, tout ébloui, en a le tournis. Les amis de la mouche, alertés par cette dernière, sont venus admirer la libellule et sont derrière. Un essaim ainsi se forme extatique, totalement admiratif. Les volutes, sorties des fesses de Lulu, leur en mettent plein la vue et le nez. Pour le grand final, la libellule invente un feu d'artifice digne d'une artiste, une vraie prouesse. Mais à force de péter, Lulu a un petit creux, un grand même. Son ventre gargouille, elle est à bout de force, toute blême. Elle dépense toute son énergie pour cette représentation qui lui demande de voler dans moult directions et le spectacle s'achève enfin. Tout en saluant son auditoire, Lulu reluque les mouches en extase. Elles sont dodues, hypnotisées. Quelle proie facile. Mais que faire ? Avaler un casse-croûte de mouche et perdre ses admiratrices ? Et se retrouver à nouveau seule et incomprise ? Quel dur sacrifice. Alors, quel choix va faire Lulu ? Oh, la tentation est trop forte. Profitant des mouches et Bobby, d'un coup d'un seul, elle gobe ses spectatrices. C'est ainsi que Lulu continue d'errer en solitaire, rassasiée mais triste, le ventre plein de rancœur. Ah, qu'il est dur de lutter contre sa nature.
Et voici que cette émission se termine. C'était la voix animale. Elle est bien surprenante, cette libellule, vous ne trouvez pas ? Merci, Marin du Couédic, pour la réalisation technique de cette émission. Je vous dis à bientôt pour un autre épisode.